Oui, ça va? Bon, généralement, on arrive à m'entendre. Alors, quelques petits éléments de carte de visite, parce que faut prendre le temps de faire connaissance quand même un petit peu, savoir à qui vous avez affaire. Alors, c'est vrai que j'habite un petit prieuré dans le département de l'Essonne, banlieue sud de Paris. Et la caractéristique de ce prieuré, c'est donc que chacun a une activité à l'extérieur. C'est-à-dire, je sais que vous allez régulièrement à Solem, et ben voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe chez nous. Mais en même temps, on a le même. La même règle, si vous voulez, la même spiritualité, c'est ça qui est essentiel. On est rattaché à deux monastères qui, un peu dans le monde, ont la même perspective missionnaire et ouverte aux questions donc, du monde, quoi. Donc voilà un peu notre, je dirais, notre statut. Et personnellement, effectivement... dans l'itinéraire qui m'amène jusque-là, aujourd'hui, peut-être deux ou trois points importants. D'abord, l'expérience que très vite, j'ai été déçu, je vais le dire comme ça, du discours et de la pratique d'Église. Alors j'aurais pu partir, et je suis resté, figurez-vous. Mais ce questionnement a eu sa fécondité, bien sûr. Deuxième point, un contact avec des jeunes de toutes sortes, certains délinquants, et je me suis dit, mais c'est pas possible ça, quand on a toute la vie devant soi, que cette vie soit bousillée, quoi, si vite. Deuxième prise de conscience. Et la troisième, je me suis dit, mais d'où ça vient? Et comment on pourrait se situer autrement? D'où petit à petit ce virage, on pourrait dire, du côté des sciences humaines, principalement de la psychanalyse, mais en gardant toujours cet enracinement, si vous voulez, évangélique, communautaire et religieux. Donc voilà un petit peu pour vous dire très rapidement ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui et demain? Alors, c'est vrai que je vais essayer cet après-midi de nous introduire dans le monde des addictions. En sachant que, aussitôt qu'on prononce ce mot-là, eh bien, l'intime et le social sont convoqués. Et c'est ça qui rend les choses des fois difficile. Si le mot addiction vous gêne, prenez le mot dépendance, hein, peu importe. Hein, je suis pas à cheval sur le vocabulaire. Ce qui importe, c'est de pouvoir avancer chacun avec ce qu'on est et avec ses questions. Ce que je vais essayer cet après-midi, c'est d'apercevoir quelques processus psychologiques qui sont à l'œuvre dans cette question de l'addiction au sexe plus précisément. Et je pense que dans le travail de groupe qui sera proposé, ben, ça sera facile de laisser tomber ce qui ne vous concerne pas ou approfondir justement ce qui est véritablement important pour chacun. C'est ça le but de ce travail en petit groupe. Alors, un premier temps, si vous voulez, c'est d'abord de se demander comment parler des dépendances, alors j'ajoute des dépendances affectives et sexuelles, les deux. Je laisse de côté le domaine légal, si vous voulez, et illicite. Et je laisse de côté la morale et la législation, toutes choses qui ont leur sens, mais ce n'est pas directement, si vous voulez, mon propos. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en parler, hein, mais je vous indique tout de suite un peu la problématique. Hein. Je vais donc m'intéresser aux fonctionnements psychologiques qui sont à l'œuvre, dans certaines pratiques de dépendance, notamment celles qui utilisent le sexe un peu comme une, entre guillemets, hein, comme une drogue. Un premier point, je plante petit à petit le paysage, si vous voulez. Addiction, dépendance, codépendance, je dirais volontiers que les frontières sont floues. Autrement dit que la dépendance a de multiples visages. Je prends des exemples, et souvent aussi je travaillerai comme ça, c'est-à-dire avec des avances théoriques, et puis en même temps des points très beaucoup plus concrets, précis. Et c'est vrai qu'on peut devenir dépendant, on peut devenir dépendant de son conjoint, hein, en idéologie chrétienne, on a des images de couple qui font qu'il y a un moment, c'est plus possible cette affaire-là, et que ça peut faire des drames. Hein. Je disais que les frontières entre dépendance et pathologie, elles sont mobiles et aléatoires. La codépendance, ça peut engager souvent des enfers domestiques qui sont douloureux à vivre, où on va être constamment dans un système bourreau-victime dont on ne sait pas se sortir. Tout ça pour dire qu'entre le mot addiction et dépendance, eh bien, il y a des liens. Par exemple, il arrive que des travailleurs sociaux qui ont soigné la maltraitance d'une femme dans un couple découvrent des années après que cette femme a refait sa vie avec un homme qui recommence comme le précédent. Comme s'il était impossible de se défaire de ce lien qui est en même temps source de souffrance. Une sorte de besoin irrépressible, de dépendance qui plonge très loin dans l'histoire de la personne. Autrement dit, une dépendance qui est le fruit amer d'une multitude de dépendances déjà vécues par ailleurs. J'aime bien l'image que fait, vis-à-vis de ces questions-là et de bien d'autres, Maurice Belleil parle de source noire, comme si, voilà, c'était absolument impossible de se détacher de cette source noire qui empoisonne la vie. Si je vous dis que dépendance, codépendance et addiction sont des termes assez voisins, ils indiquent en tout cas que le sujet, à ce moment-là, il est lié, il est dépendant à l'égard d'une chose, mettez les guillemets à cela, hein, à l'égard d'un objet, on va dire ça, d'une façon un peu plus technique. Et il faut savoir aussi que ce phénomène de l'addiction, on l'étudie, mais c'est relativement récent. Hein. C'est dans les années 80 qu'aux USA, on a commencé à s'intéresser à ces questions. Hein. Et c'est seulement vers les années 2000-2005 qu'en France, il y a eu des services spécialisés pour ce genre de réalité. Ça, c'est pour un peu, si vous voulez, planter les quelques mots de vocabulaire. Vous verrez vous-même, d'ailleurs, si ces mots-là vous conviennent ou pas. C'est un début aussi d'un travail en groupe. Petit galop, si vous voulez, à un niveau plus théorique. Alors, évidemment, en vous disant cela, j'utilise, moi, les gens qui sont pour moi plus ou moins des références. Hein. Freud, par exemple, à propos hein, d'addiction, dépendance, tout ça, il parle d'un désir primitif. Je trouve que c'est intéressant. Désir primitif, et il note les fantasmes inconscients qui sont à l'œuvre dans ce désir. Bon, voilà, premier repère théorique, quoi. Un autre, Sandor Rado, il dit autre chose. Il dit que l'addiction est à mettre en relation avec une régression à l'enfance. Donc vous voyez, un deuxième repère théorique, faut les laisser venir, et après c'est vous qui conclurez d'une manière ou d'une autre ce qu'il en est, si vous voulez. Autre repère théorique, Herbert Rosenfeld, qui, dans les années 65, il affirme, et bien sûr il le justifie, il le démontre, que l'addiction est liée à ce qu'il appelle des tableaux maniaco-dépressifs, on dirait aujourd'hui bipolaire, vous voyez? Comme si c'était cela qui sous-tendait ces addictions. Et puis Winnicott, dans les années 50, parle de l'addiction comme une pathologie de la transitionnalité. Alors ça, c'est son grand mot, hein, l'objet transitionnel, qui permet à la fois une création et une découverte de la réalité. C'est-à-dire, c'est un objet, c'est un support. On pourrait penser à l'enfant et à son doudou, bon, peu importe, c'est pour faire image, hein. Mais en tout cas, cet objet transitionnel, il ouvre toute une zone intermédiaire d'expérience qui, comment dire, est plus ou moins investie et permet de s'ouvrir à autre chose, quelquefois pour contrecarrer des angoisses, hein. C'est-à-dire que on se fixe sur un objet là qui fait un peu intermédiaire pour ne pas arriver à supporter tout ce qui serait de l'ordre d'une séparation. Je laisse de côté ces différentes données théoriques, hein, on ne va pas passer son après-midi à faire de la théorie, hein. Ce que je veux dire à l'appui de cela, c'est que il y a deux processus psychologiques qui interviennent dans l'addiction. La répétition, c'est-à-dire que la personne va répéter un événement ancien, traumatique, pour tenter de s'en défaire. C'est-à-dire qu'il le revit en pensée ou en cauchemar sur son propre corps. Il en garde le souvenir, mais l'oubli, si vous voulez, et le refoulement sont impossibles. C'est-à-dire que le besoin de répéter est plus fort que tout. Donc ça, c'est un, si vous voulez, un premier processus important à repérer. Le deuxième, c'est processus de reproduction. C'est-à-dire reproduction de situations déjà vécues, souvent dans l'enfance. Ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, se marier avec un homme alcoolique quand on a un père alcoolique. Bon. Enfin, l'exemple est complètement grossier, mais c'est pour aider à réfléchir, hein, évidemment. Alors, répétition et reproduction, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à donner plus d'importance à l'objet, alors l'objet au sens psychologique, c'est-à-dire une réalité qu'on a intériorisée en soi et qui est l'unique point de référence. Alors, on pourrait dire que c'est significatif, ça, dans la passion amoureuse. On tombe amoureux malgré tel ou tel point négatif du partenaire, ou malgré sa dépendance, au lieu de voir qu'on est amoureux précisément à cause de ces éléments. Et là, ce déplacement-là est souvent difficile à apercevoir. Tout à l'heure, j'employais le mot de codépendance. Ça consiste à s'habituer mutuellement à la maltraitance ou au sacrifice, en répétant et en reproduisant des schémas qui sont profondément ancrés dans la personne. C'est-à-dire que la réalité n'est plus l'autre dans sa différence, mais ce sont les habitudes, la maltraitance, le sacrifice ou les mensonges qui travestissent, qui transforment, qui défigurent le réel. Et alors il faut souvent un événement ou un élément extérieur pour ouvrir à une certaine prise de conscience. Et bien évidemment, cette prise de conscience, elle arrive dans la surprise et dans la douleur. Hein, parce que, je dirais, affronter le réel, c'est jamais quelque chose de facile. Donc je viens de vous situer rapidement, ou de vous préciser rapidement des questions de vocabulaire. Je viens de vous ouvrir à quelques éléments théoriques, si vous voulez. Je prends maintenant des cas, parce que c'est ça aussi qui permet d'avancer, voyez. Je pense que pour réfléchir à toutes ces questions-là, il faut être capable de naviguer, si on peut dire, avec du vocabulaire, de la théorie et de l'expérience. Et de mixer, si on peut dire, ces différents éléments pour petit à petit découvrir un sens, une signification à ce que l'on vit. Alors voilà, je vous prends quelques cas, quatre, qui permettent, si vous voulez, de se situer dans tout cet univers de l'addiction. Et puis, je m'embarquerai après sur un approfondissement de tel ou tel concept qui permette de penser un peu plus ces addictions. Quelques cas. On peut parler d'Andrew, qui est prêtre. Et alors, dans sa solitude, il assume son homosexualité depuis longtemps, sauna, lecture, relations sportives. Et ses responsabilités ecclésiales contiennent cette tendance qui est son secret. Et voilà que des décisions institutionnelles vont pour lui modifier sa place dans l'Église et vont bouleverser cet équilibre intérieur, finalement fragile, mais enfin qui était vivable quoi, jusque-là. Alors il consulte pour gérer ce moment de crise institutionnelle pour lui. Et il lui faudra du temps pour passer du prétexte qui l'a amené à consulter, donc cette crise vis-à-vis de l'autorité, à l'analyse de ses pratiques homosexuelles où interviennent à la fois le plaisir et la nécessité. Le déni, ou plus souvent la sous-estimation de ses pratiques, lui évite, pendant un temps, d'en assumer le sens. Et le choix de continuer ou d'arrêter ses comportements est toujours entrecoupé de rechutes qui obligent de toute manière une nécessaire vigilance. Et bien évidemment, ça lui demande beaucoup d'énergie. Vous voyez, dans ce long itinéraire que je résume là en quelques phrases, il s'agit tout autant de se situer au niveau comportemental, donc pour lui, donc de choix, de décision très pratique, donc pour retrouver ou acquérir la maîtrise qui doit être la sienne vis-à-vis de la sexualité, autant que possible. Il utilise sa démarche analytique, si vous voulez, pour approcher les causes profondes de son comportement. Et la crise d'autorité qui l'a amené, si vous voulez, au fond, elle est le prétexte à aborder des aspects plus sérieux, plus profonds de sa vie. Donc voilà, premier cas, vous voyez quelqu'un qui, par rapport à l'institution, est fort bien situé, mais en même temps, un événement qui remet tout en cause. Le deuxième, c'est Clara. C'est Clara qui découvre son addiction au sexe. Alors, elle supporte depuis des années un mari qui est sexuellement malade. Elle est catholique, pratiquante. Et puis, l'occasion d'une rencontre professionnelle lui fait découvrir des potentialités personnelles qu'elle n'imaginait pas. Et alors, elle découvre les impasses de la dépendance de son mari, qui, au fond, l'ont empêché de s'épanouir, elle, en tant que femme. Et tout cela, elle le découvre grâce à son amant. Et alors, quand elle consulte, alors bien sûr, il s'agit d'écouter, d'accueillir cette instabilité psycho-émotionnelle, on pourrait dire, qui est tellement forte que ça empêche de penser, quoi. Hein ? Ça, c'est un premier temps, mais il faut qu'elle découvre petit à petit que cette aventure, ce choix qui bouleverse tout et en même temps porteur de sens et finalement n'est pas sans fécondité. Et elle découvre que sa sexualité redécouverte l'avait mise auparavant dans une dépendance affective. Alors, il y en a qui choisissent d'autres moyens. Elle a choisi le changement professionnel pour vivre ça. C'est-à-dire que des études qu'elle a laissées tomber, elle les a reprises et se situe professionnellement maintenant d'une façon beaucoup plus positive. Mais d'autres peuvent choisir le sport, la spiritualité, tout ce qu'on veut. Ce qui est important, si vous voulez, c'est le choix d'un support qui assume la réalité et qui permet, autant que c'est possible, de la déplacer, de la transformer. Je peux vous parler aussi maintenant de la codépendance avec Nathalie et Pierre. Vous voyez, à travers les différents exemples, j'essaye de donner un peu de la chair, c'est le cas de le dire, aux mots que j'ai utilisés dans mon vocabulaire. Les pièges de la codépendance avec Nathalie et Pierre. Pierre y découvre et il assume tardivement son homosexualité dans sa vie de couple et sa famille. Et les crises sont nombreuses avec Nathalie. Et Pierre y refuse une démarche de soins. Et rien n'est possible tant que Pierre croira qu'on peut sortir seul d'une addiction sexuelle. Et que mentir à la réalité, c'est pas non plus une solution. Et donc établir une parole de couple dans cette situation, c'est très difficile. Et ils ont essayé ce que certains appellent des méthodes répressives, mouchard sur l'ordinateur, surveillance des comptes financiers, résister aux mensonges. Bon, voilà, méthodes répressives. Ils ont essayé ce qu'on peut appeler des stratégies d'anticipation, c'est-à-dire se méfier des lieux et des situations à risque. Gestion de l'emploi du temps, pour barrer les routes au fantasme ou à l'ennui. Bon, tout ça, c'est autant de moyens, si vous voulez, pour guérir quelque chose de cette addiction qui finalement pollue sérieusement la relation du couple. Mais il restera toujours, et ils en sont là, la nécessité de soins individuels, et une grande vigilance de couple, parce que la vulnérabilité, elle est là pour l'un comme pour l'autre, mais pas pour les mêmes raisons, bien sûr. Quittons l'univers du couple, là, que j'évoque rapidement, pour aller à la rencontre de Julien. Julien, qui essaye de passer du cybersexe au monastère. Alors, Julien, c'est un jeune adulte hyperactif dans sa profession, dans l'humanitaire, dans son groupe de chant, de théâtre. Et il est obsédé par le sexe via l'ordinateur et au travail comme le week-end. Il a besoin profondément de voir et d'être vu. C'est quelque chose qui lui appartient, qui fait à la fois partie de ses fantasmes et de sa personnalité. Alors voilà, petit à petit, il développe un peu son histoire. Il se souvient que, tout jeune et adolescent, il a été le jouet sexuel de plusieurs adultes. Et il se trouve, au moment où il consulte, en plein conflit intérieur entre son attachement au cybersexe, une masturbation compulsive et son désir de faire une expérience spirituelle monastique qu'il espère comme une solution à tous ses problèmes. Et en même temps, il reste fasciné par la force et la variété de ses pulsions, qu'elles il répond, plus ou moins, par le sauna, la plage, le naturisme, enfin. Et c'est à travers ça que, petit à petit, il s'inquiète, il est très jeune, et il s'inquiète de savoir s'il est comme tout le monde, c'est son langage. Et alors, vis-à-vis de cet univers pulsionnel, relativement chaotique, Julien doit apprendre, et c'est très difficile, ce qu'il en est de la frustration comme moyen de progression. Il le sublime dans un désir vocationnel. Bien sûr, hein, qu'il commence à analyser les éléments traumatiques, conscients et inconscients, qui l'ont amené jusque-là, qui provoquent en partie ses comportements. Hein. Mais il a encore du chemin à faire, si vous voulez, pour éclairer ce qu'il peut faire et aussi ce qu'il est, les deux. Et ça, c'est pas du tout facile. En vous donnant ces exemples-là, si vous voulez, je n'ai qu'un but, c'est d'indiquer autant qu'il est possible que l'addiction au sexe est quelque chose de varié dans ses formes, très complexe dans ses développements, mais aussi, j'ai envie de dire, ça peut évoluer, quoi. C'est pas forcément c'est pas une prison a priori, quoi. Alors, on peut se demander, vous voyez, comment on pourrait, si vous voulez, entendre et accueillir ces différentes positions. Je crois que dans une démarche, si vous voulez, on essaye d'y voir clair. Il faut repérer qu'il y a toujours, si vous voulez, des phases et des cycles. Que les choses ne sont jamais fixées pour un temps, mais qu'elles sont capables, si vous voulez, d'évolution. Et donc, il faut repérer un peu comment ça vient de très loin dans l'histoire de la personne. Autrement dit, toute dépendance, toute addiction a toujours besoin d'être analysée à un moment ou à l'autre, et d'être analysé comme un processus. Autrement dit, le sujet, la personne, peut découvrir petit à petit comment elle est prise dans ce mécanisme qui lui échappe et qui se développe, les deux. Et c'est vrai que l'histoire personnelle, le comportement, les symptômes, tout ça, c'est important de les éclairer. Un spécialiste de ces questions aux États-Unis schématise un peu cette situation. Alors, vous savez, les Américains, ils sont toujours pratico-pratiques. Alors, des fois, c'est un peu grossier, mais enfin, ça aide à penser quand même. Alors, voilà le Sternberg, là, en question. Il imagine un triangle, la vie comme un triangle. Il la schématise comme ça, où il y a un pôle passionnel, un pôle proximité-tendresse et un pôle contrat. Alors, bien sûr, ces différents pôles, ils sont imbriqués dans la relation, mais on peut penser que si l'un des pôles s'isole des autres ou prend une forme excessive, une relation addictive n'est pas loin. Et je pense que ce schéma, tout pratique et tout grossier qu'il est, eh bien, peut aider aussi quand même à penser et à réfléchir. Alors, c'est vrai que dans ces processus qui sont à l'œuvre dans une addiction, il y a des rechutes, hein, qui sont inévitables, et ça fait partie de la vie. Hein. Mais en même temps, ces rechutes ne sont pas irrémédiables. Voilà. Et c'est vrai aussi que c'est pas toujours facile de se situer, quand on est pris par ce genre de réalité, de se situer dans la société telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec toutes les sollicitations que l'on connaît bien. J'ai essayé donc de vous emmener là, je viens de vous emmener auprès de quatre type de, comment dire, d'addiction. Maintenant, on va essayer, autant que c'est possible, de conceptualiser un peu ces questions-là. Rapidement, parce que il n'est pas possible de tout dire, et ce n'est pas le but. Il faut se dire aussi que par rapport à ces questions d'addiction, il y a des conceptions différentes d'explication. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours se dire que ces conduites d'addiction, de dépendance, sont toujours en mouvement entre ce qu'on pourrait appeler le normal et le pathologique. Ça ne suffit pas de dire ça. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir comment on approche, si vous voulez, ces questions-là. On peut les aborder d'une façon biologique. Hein, c'est toutes les études qui sont faites actuellement autour du cerveau et des substances. Alcool, tabac, morphine, héroïne, enfin, etc. Enfin, tout ce qui agit au niveau des neurones, qui libère de la dopamine et qui entraîne toutes des habitudes. Hein. On n'oubliera pas quand même, au niveau biologique, on ne peut pas s'enfermer seulement là-dedans, hein, qu'il y a aussi des héritages génétiques. Hein. Mais tout ce biologique, avec sa complexité, et je ne vais pas plus loin, hein, eh bien, tout ne s'explique pas par le biologique. D'autant plus que les causes biologiques sont multifactorielles. Hein. Ça dépend de la personne, ça dépend de son évolution, etc. Mais c'est vrai qu'actuellement, on est très sensible à cette approche, si vous voulez, biologique de l'addiction. J'ai envie de dire qu'il intervient, bien évidemment, hein, mais pas seulement. Alors, vous pouvez avoir une approche beaucoup plus sociologique de l'addiction. Vous avez remarqué qu'en vous décrivant les différents cas que j'ai évoqués, j'ai navigué pas mal, si vous voulez, entre le personnel et le collectif, enfin l'ambiance, quoi, l'environnement. Hein. Alors, c'est une façon, effectivement, d'approcher l'addiction. Hein. Et c'est vrai que le contexte social, les événements vécus, eh ben, c'est pas rien pour fragiliser une identité sexuelle. Hein. Et puis, il y a l'augmentation de l'offre sexuelle, il y a la libération des mœurs, il y a tout ça qui intervient et qui fait que effectivement, on peut avoir là des raisons, si vous voulez, qui peuvent éclairer telle ou telle forme d'addiction. Mais une fois de plus, le sociologique n'explique pas tout. C'est exactement comme le biologique, si vous voulez. Je me méfie quand on s'enferme, si vous voulez, dans une seule perspective, pour approcher des réalités aussi complexes. Alors, bien sûr, vous avez l'approche psychologique. Hein. C'est aussi une façon, je vous l'ai évoqué en vous donnant comme ça quelques éléments théoriques, hein, tout à l'heure, mais effectivement, c'est une manière de comprendre et d'approcher l'addiction au sexe, qui apparaît alors comme une réaction de défense et de régulation contre les déficiences ou les failles occasionnelles, et tout ça touchant la structure profonde de la personne. Vous voyez, en disant cela, hein, eh bien, l'addiction n'est plus un comportement déviant, mais un processus de régulation de l'équilibre de la personne comme moyen d'échapper à un inconfort interne. Autrement dit, c'est une tentative de rétablir un certain équilibre, puisqu'on ne peut pas l'atteindre autrement. Et alors, c'est vrai que si on reste dans le domaine psychologique, on dira ou on privilégiera les temps de la petite enfance, les moments de structuration du désir au cours de l'adolescence, etc., etc. Mais là encore, voyez? Et pourtant, je suis quand même participant de ce monde-là. Je pense qu'on ne peut pas réduire, si vous voulez, les phénomènes d'addiction à un seul moyen de compréhension. Et alors ça, c'est suivant chacun, vous voyez? C'est suivant chacun à trouver l'équilibre qui semblera le meilleur ou du moins le moins mauvais. Ah oui, c'est l'addiction au portable. Alors, donc vous voyez, je vous situe là des, comment dire, des approches hein, qui permettent de comprendre un peu ce qu'il en est de l'addiction. Alors, il y a un concept sur lequel maintenant je vais insister davantage, parce que je pense que c'est quand même une clé, c'est le concept d'attachement. Alors, je vais essayer d'entrer davantage dans l'approche, si vous voulez, de ce concept. Je vous disais tout à l'heure que l'addiction a le plus souvent à voir avec l'histoire événementielle de la personne, souvent dans l'enfance ou dans les premières interactions de l'enfant avec son environnement. Le Androuve, là, que j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, dans son parcours, il disait comment ses parents l'ont aimé, mais sans savoir et sans pouvoir le dire. C'est-à-dire que l'attachement qui est si fondamental quand on est petit, enfant, quoi, hein, il n'a pas été nommé et il n'a pas été, pour lui, tellement agi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fonctionné. Vous voyez? Mais il n'empêche que voilà, ça n'a pas fait chez lui une trace suffisamment importante pour qu'il puisse le reconnaître. D'où sa quête indéfinie et pendant des années, de s'attacher quoi, à des objets qui sont comme des, comment dire, une revanche hein, par rapport à ce qui lui a manqué. Alors vous avez un dénommé Bowlby qui a beaucoup travaillé ces questions d'attachement dans les années 69, 73, 80. Et lui, alors, il insiste beaucoup sur la notion de sécurité. Je trouve que c'est assez intéressant. Rappelez-vous, hein, quand je vous ai parlé de Julien, il va au cybersex à la fin de la semaine de travail quand il est tranquille chez lui, avec lui, en sécurité. Vous voyez? Notion de sécurité, je crois, est tout à fait importante. Et alors, ce concept, si vous voulez, d'attachement, qui est issu de Freud, que Lacan reprendra plus tard en parlant de relation d'objet. Alors, objet, ce n'est pas l'objet matériel qu'on a sur une table et dont on va saisir, hein. C'est la réalité interne, par rapport à laquelle on s'attache pour se sentir exister. Vous voyez? Ce qui est tout autre chose, hein. Autrement dit, l'objet, quel qu'il soit, il organise le monde psychique de la personne à partir des représentations de soi, des autres et des relations entre les deux. Alors Julien, par exemple, son fantasme, on va dire son objet interne, c'est un corps nu d'adolescent à déshabiller. Il a du plaisir à voir et du plaisir à imaginer l'emprise sur le corps de l'autre. Hein, on n'oublie pas qu'il a vécu lui-même des choses semblables. Hein. Et alors, cet objet interne, chez lui, eh bien, fabrique des rêveries masturbatoires, puis des pratiques pornographiques. Alors, il faut savoir que ce concept, si vous voulez, d'attachement, qui essaye de, voilà, d'éclairer un peu les processus de l'addiction, bien sûr, il a d'abord été vécu par l'enfant vis-à-vis de sa mère. Hein? Je m'attache à celle qui me nourrit et me protège. Hein. Et ça perdure tout au long de la vie, à travers des modes de comportement, des façons d'entrer en relation. Hein. C'est-à-dire que le vécu précoce, je le redis autrement, hein, le vécu précoce continue de développer à l'âge adulte des modèles de représentation de soi et des autres. Je l'ai évoqué, enfin je viens de l'évoquer à propos de Julien. Et alors cet attachement de fond qui est hérité de l'enfance peut répondre tout autant à un besoin de sécurité, c'est là où les choses se compliquent, ou à exprimer l'angoisse d'en manquer en n'étant jamais sûr que l'autre répondra vraiment à ce besoin d'attachement. Alors il y a des études récentes qui ont travaillé cette question-là de l'attachement sous mode de questionnaire, en distinguant des postures différentes par rapport à cet attachement et à la façon dont ça s'organise. On a parlé dans ces questionnaires-là de gens qu'on peut désigner comme des sécures autonomes. Qu'est-ce que c'est, sécure autonome, par rapport à l'addiction ? Ben, je sais, ça veut dire ça, hein, je le traduis, hein, je sais d'où vient ma dépendance, je m'en débrouille. Sécure autonome. Vous avez un autre profil, qui est l'insécure détaché. Je traduis. Je vais, en pensant bien sûr aux exemples que je vous ai proposés, je vais au sauna quand ça me prend. Ça me fait ni chaud ni froid, c'est le cas de le dire. Enfin, vous voyez ? Bon, insécure, détaché. Vous voyez ? Toute chose, vous voyez, au-delà du langage, hein, qui bien sûr nous traverse, hein, y a pas de problème là-dessus. Hein. L'insécure préoccupé, c'est une autre posture qui est donnée par ces études. Eh bien, c'est celui ou celle qui aura des pratiques qui vont le bouleverser lui-même, bien sûr, mais qui bouleverseront aussi son entourage proche. Et il faudra bien se débrouiller avec les parents, avec le jugement, avec la culpabilité. Et puis, la dernière posture, qu'on pourrait appeler le non-résolu désorganisé, c'est-à-dire que, voilà, c'est une succession d'expériences qui sont traumatiques, anciennes ou récentes, mais qui ne sont pas reliées, quoi. Quelque chose qui est de l'ordre du chaos, quoi. Je vous donne cette espèce de grille, là, qui ressemble à une table de matière, parce que elle peut être intéressante pour approcher cette question de l'addiction, vous voyez, et de voir comment on peut se situer par rapport à elle. Parce qu'on n'est jamais, bien évidemment, dans une seule posture. Alors, vous voyez que ce type d'étude, que je résume très rapidement, il a, d'une certaine façon, un double intérêt. C'est-à-dire qu'il vise à la fois des comportements et, en même temps, des processus inconscients qui sont à l'œuvre par rapport à cet attachement à l'objet. Voyez. Et peut-être que dans ce contexte, on s'aperçoit alors que des attachements faibles de l'enfance peuvent avoir des liens avec telle ou telle addiction, comme une sorte de compensation. Alors, c'est pas question d'en faire une loi absolue, hein. C'est-à-dire que l'insécurité de l'attachement, si vous voulez, ça peut être un facteur de risque, mais enfin, on peut l'inclure dans son organisation psychique, hein, sans que ça soit forcément non plus un drame. Il faut se méfier aussi des études ou des questionnaires qui vont mettre les gens dans des catégories qui fait que on a l'impression qu'au-delà de cette catégorie, point de salut, quoi. Alors, à la fois, c'est pratique pour penser, et puis en même temps, je pense qu'il ne faut pas en être dupe. C'est vrai aussi que cette question d'attachement, c'est le corps qui incarne la mémoire et qui est, comme on pourrait dire ça, l'antichambre des expériences psychiques ultérieures. C'est-à-dire que ce que le corps a supporté ou vécu, même au niveau du pré-verbal, avant le langage, c'est à la source de représentations mentales, et c'est pas toujours évident de s'en apercevoir, et que, par exemple, le corps va être à tel ou tel moment le champ clos d'excitation ou de pas d'excitation du tout. Et à ce moment-là, on recherchera, comme on dit, des objets de substitution pour essayer de se débrouiller avec ce qui n'a pas été vécu à un moment ou à un autre. Alors, sentez bien que ces questions d'attachement qui ont besoin toujours d'être approfondies engagent la notion d'identité. Ce sont les attachements vécus, mal vécus, trop vécus, enfin bon, peu importe, qui petit à petit fabriquent une identité. Et alors l'addiction, à ce moment-là, si vous voulez, elle peut apparaître comme la moins mauvaise solution, le moins mauvais des compromis. On vit avec ça, c'est pas très confortable, mais on supporte. Alors, c'est là où j'induis une notion que je trouve tout à fait importante, même si il en a fait son fonds de commerce, mais c'est la notion de résilience de Cyrulnik. Elle est intéressante quand même. Elle est intéressante, si vous voulez, parce que au fur et à mesure où je vous parle, peut-être que à la fois vous revenez sur des morceaux de vie qui sont extrêmement pénibles, et puis vous pouvez avoir l'impression de retrouver ou de trouver un poids dont vous avez envie, d'une manière ou d'une autre, de vous débarrasser. Bon, le Cyrulnik en question, il est intéressant avec sa notion de résilience. Pourquoi ? Parce qu'il essaye de nous dire que malgré les épreuves, les traumatismes, les conditions de vie difficiles, eh bien, on peut toujours poursuivre un développement personnel et relationnel positif. Alors, bien sûr, il a toute une réflexion, ça suppose toute une capacité à relativiser les événements vécus, à garder une certaine distance, à les situer dans un contexte plus large pour éviter la culpabilisation ou la déprime ou la victimisation. Alors, c'est plus facile à dire qu'à vivre, je vous l'accorde. Mais c'est intéressant, peut-être, de voir quand il s'agit d'addiction, comment, si vous voulez, quelles sont les issues possibles, d'une certaine manière. Alors, j'essaye de conclure en fonction de ma pratique. Donc, vous voyez, le chemin sur lequel je vous ai embarqué, c'est un peu rude au moment de la sieste, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi du genre. Donc, je vous ai emmené de questions de vocabulaire. On a été se promener vers la théorie, vers l'expérience. Et puis après, on a approché des concepts, si vous voulez, ou des perspectives qui permettent de penser cette question de l'addiction. Voilà. Et je conclus simplement, j'ai envie de dire en fonction de... Ouais, en fonction de ma pratique, ça c'est d'une façon ou d'une autre, quoi. Je commencerai par ceci, par une phrase de Freud et puis une phrase de l'Évangile. J'aime bien les mettre les deux ensemble. Freud il dit, si on parle, il fait clair. Bon, je crois que c'est vrai. Et Saint Jean, dans son Évangile, il dit, celui qui fait la vérité vient à la lumière. J'aime bien les mettre tous les deux ensemble, parce que je crois que tous les deux ils disent quelque chose de profondément juste. Et alors, quand il m'arrive de rencontrer des personnes, qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer de vous dire ce qui se passe, parce que peut-être ça pourra vous renvoyer à telle ou telle pratique, et justement pour pouvoir l'évaluer, en parler, dire ce que vous pouvez en penser. Je parle pas, j'aime pas parler de séances d'analyse, vous voyez, enfin, sauf dans les cénacles habituels, mais je préfère parler de rencontres analytiques. Pourquoi rencontre ? Parce que, eh bien, on est deux à s'engager dans la même aventure. Il n'y en a pas un qui sait, puis l'autre qui ne sait pas. Ça, c'est pas vrai, ça. On est dans un lieu, dans un espace et dans un temps relativement hors territoire habituel, qui permet à la parole de faire son chemin, d'avancer au plus loin qu'elle peut. Et très vite, que ce soit celui ou celle qui vient et moi-même, on ressent très vite ce qui sera possible ou pas. Ça s'appelle le transfert. Moi, je préfère parler, au moins au tout début, de reconnaissance réciproque. Et là, le corps parle, de part et d'autre. Vous voyez ? Une façon de serrer la main, d'accueillir quelqu'un. Et la façon de serrer la main, ou de ne pas la serrer, d'ailleurs, ça dépend de chacun. Enfin, bon, tout compte. Le corps, le vêtement, le geste, le regard. Donc, voilà. On est déjà, si vous voulez, dans la reconnaissance réciproque. De mon point de vue, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, pourquoi ? Ben parce que la première exigence à ce moment-là, c'est de quitter, pas de les oublier, de quitter ces repères théoriques pour tenter d'être neuf et disponible à ce qui va advenir et qui est du domaine de l'inconnu de part et d'autre. Lacan, il dit que le travail du transfert est une œuvre à réaliser qui sera reprise à bien des moments au cours du trajet analytique. Eh bien, je crois que c'est vrai, et on retrouve là quelque chose de la notion d'attachement dont je vous parlais il y a quelques instants. Bien sûr, cette aventure de parole a ses phases, parce que personne n'est d'emblée libre, parlant et désirant. Faut pas rêver. Hein. Le désir, les résistances, la honte de dire sont au rendez-vous. Et puis l'inconscient, ben, il nous mène, et il mène chacun. Hein. Celui ou celle qui vient est l'analyste qui se livre, si vous voulez, aussi à cette aventure. Et c'est vrai que de part et d'autre, eh bien, c'est souvent dans la difficulté ou la douleur qu'une vérité singulière voit petit à petit le jour. Je vous donne ces quelques points qui pourraient être développés d'une façon encore plus complète, si vous voulez. Hein. Mais pour vous dire que... quand on se met à parler. On démarre un chemin dont on ne connaît pas l'issue. C'est quand même ce que vous allez essayer de faire, hein, en groupe. Voyez. Alors, ce qui est bien, d'une certaine manière, c'est que le groupe, à la fois, il contient et il soutient. Et ça, c'est précieux. C'est précieux parce que on n'est pas seul avec sa parole. Voilà. J'ai envie de m'arrêter là. Parce que l'important, c'est ce qui va pouvoir donc s'élaborer ensemble. Je laisse à disposition, si vous le voulez, c'est le plan de ce que je vous ai dit. Ça peut des fois, aider à rassembler ces idées, quoi. Avec 3-4 bouquins, mais c'est pas avec les bouquins qu'on avance. Enfin, oui et non, quoi. Mais, vous voyez, c'est... Bien.